Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Cette semaine, nous allons répondre à la question « Est-il possible de faire de l'autobiographie avec du texte d'auteur ?» avec le collectif In Vitro qui est avec nous. C'est le Théâtre de la Gamelle.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur,
noble. Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Et bonjour à tous, bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Nous sommes aujourd'hui avec le collectif In Vitro qui présente le triptyque des années 70 à nos jours au Théâtre de la Croix-Rousse. Donc nous sommes avec Julie Deliquet, bonjour.
Oui. Bonjour.
Et avec Éric Charron, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est un travail qui est à la fois dans du texte d'auteur, ça commence par la noce de Bertolt Brecht, ça passe ensuite par Dernier remords avant l'oubli de
Lagarce.
Et ensuite, il y a cette création, nous sommes seuls maintenant, du collectif qui vient compléter ce triptyque. Donc, c'est en ce moment au théâtre de la Croix-Rousse. Et nous avons beaucoup de questions sur ce collectif, sur ce travail. Tout d'abord, je voudrais savoir si vous pourriez vous présenter et présenter rapidement le collectif. Julie ?
Eh ben oui, moi je suis donc la metteur en scène du collectif. Du coup, on fonctionne, nous, avec un metteur en scène. Et moi, je ne joue pas dans les spectacles. Donc, c'est un collectif principalement d'acteurs, puisqu'il y a 13 acteurs au sein du collectif. Le collectif est vraiment parti des 13 acteurs et de moi. Et après, se rajoutent deux créateurs lumière et techniciens plateau et une administratrice. On va dire que vraiment le noyau, ça fait 15, 16, c'est ça ?
C'est 17.
Et Éric, qu'est-ce que tu peux dire sur toi ?
Mon expérience dans le collectif In Vitro, j'y suis depuis le début. Maintenant, l'existence de vie de ce collectif, c'est 7 ans. Mm-hmm. 2009, création de Dernier remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce. Je n'ai pas participé à l'expérience de la noce, mais du coup j'ai rejoint le collectif sur Nous sommes seuls maintenant et Catherine et Christian maintenant. Et sinon je travaille avec d'autres compagnies.
D'accord, très bien. Alors Julie, on va aller sur le collectif lui-même et son origine. Tu as fait plusieurs écoles de théâtre et notamment la méthode Lecoq, la fameuse méthode Lecoq. J'aimerais savoir si tu peux nous expliquer ça très rapidement, à quoi ça correspond.
Alors moi j'ai déjà fait effectivement la formation Jacques Lecoq, ben, comme Éric, comme plusieurs des acteurs du collectif, mais effectivement pas en première formation. J'avais fait le conservatoire à Montpellier, puis une autre école, le studio théâtre d'Asnières, qui était une formation plus classique autour du jeu d'acteur, dans lequel on se revendique aussi très fortement. Et puis Lecoq, c'est une école internationale qui réunit en première année une vingtaine de nationalités différentes sur le travail de l'acteur autour du corps et donc du langage aussi autre que la parole pour essayer de créer des objets ensemble. Puis après, se décline en deuxième année, effectivement, un théâtre qui va vers le masque, le clown, le chœur, voilà, qui sont aussi... finalement, un théâtre qui n'a rien à voir avec celui que je fais. Par contre, effectivement, on nous apprend à travailler ensemble, alors qu'on ne parle pas forcément la même langue, qu'on n'a pas les mêmes référents. Et ça, je crois que ça m'a appris beaucoup sur la notion de groupe que j'ai voulu défendre quand j'ai créé le collectif In Vitro.
Donc, les spectacles que vous produisez en ce moment ne sont pas forcément issus de la méthode Lecoq
du tout. Non, pas du tout. Non. Non, non, non.
Et comment tu qualifierais la méthode de travail alors du collectif ?
Bon, on l'a inventé, je crois que c'était ça. Je crois que moi, au début, j'avais fait un petit peu de mise en scène avant de faire le collectif In Vitro. Et puis, je trouvais que ce qui me passionnait, c'était la recherche, c'est-à-dire la répétition. Et puis, à partir du moment où il fallait arriver à la création et qu'il fallait, par exemple, faire une création lumière, faire un décor, etc., c'était des choses où je le faisais un peu parce que je me disais, c'est ça, faire un spectacle. Et du coup, j'avais la sensation d'arrêter, moi, ce travail de recherche qui me passionnait en répétition. Et du coup, la sensation qu'au bout de la deuxième, je m'ennuyais en représentation, donc je me suis dit que j'étais sûrement pas faite pour faire de la mise en scène. Et après, quelques années après la fin des écoles, je me suis dit que peut-être que cette idée de spectacle toujours en travail et ce qui me fascinait moi en répétition, peut-être que ça pourrait aussi intéresser des spectateurs dans le cadre d'une création et d'un spectacle, hein, c'est pas des répétitions publiques, et qu'il fallait juste qu'on l'invente ensemble et peut-être moi repenser la place du metteur en scène comme étant un échange avec les acteurs et non pas arriver avec un décor qui avait déjà été penser avant la répétition et que tout serait issu du travail collectif.
Alors du coup, sur ce principe de collectif et son fonctionnement, est-ce que tu pourrais, c'est surtout une question pour rebondir dessus, mm-hmm. nous donner la différence entre une compagnie et un collectif ?
Aujourd'hui, je pense que si on voulait titiller, il n'y en a pas. Moi, ce que je, d'un point de vue de fonctionnement au début, évidemment qu'il y en a eu un parce que on était nombreux, on n'avait pas d'argent. Du coup, on était en autogestion totalement, c'est-à-dire que la notion de collectif, c'était aussi, dans un premier temps, je n'ai pas besoin d'autres postes que des acteurs. On est nombreux, on va devoir se battre pour avoir une masse salariale, etc. Du coup, tous les autres postes, on va les autogérer. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé des choses dans la rue pour faire les scénographies. Toutes les scénographies sont issues de choses que j'ai trouvées à droite, à gauche. Pareil pour les costumes. Il y en a qui se sont mis au post-costume. Il y en avait qui avaient fait des études de maths, qui se sont mis à faire les feuilles de paye, etc. C'était une manière, effectivement, pour, en tout cas, essayer de valoriser ce qui était nécessaire pour nous, c'est-à-dire trouver des temps de répétition et des acteurs, et que le reste, on allait faire nous-mêmes. À partir du moment où on s'est plus professionnalisé, ces postes-là, on les faisait moins bien que d'autres, et une administratrice, c'était nécessaire. Du coup, même moi, avec mon côté brocante de mes spectacles, derrière, il fallait quand même aussi qu'une scénographe voir comment ça tient, parce que ces choses-là aussi s'abîmaient. Donc, on va dire que ça a muté. Et je revendique aujourd'hui déjà les origines de ce collectif et le fait que dans la méthode de travail, effectivement, on fonctionne artistiquement en collectif. Mais ça pourrait s'appeler compagnie. Il a fallu choisir un nom il y a 7 ans. Et du coup, j'avais la sensation que d'un point de vue originel, c'était plus juste. Et c'était une manière aussi de nous inscrire dans ce qu'on essayait de chercher pour trouver la compagnie.
Est-ce que la volonté de faire de la mise en scène était dès le départ dans ton cursus ou c'est venu en sortant des formations ?
Non, c'est dès le départ parce que j'ai fait un bac et puis des études de cinéma et du coup j'étais passée par la réalisation. Du coup, cette idée même de réalisation a toujours été présente. Après, je voulais devenir actrice. J'ai vraiment fait des écoles pour être comédienne. Et c'est à l'école Jacques Lecoq où effectivement le fait de devoir travailler en groupe dans ce qui s'appelle des autocours. Donc c'est une sorte de petite présentation tous les vendredis de travaux où on est vraiment livré à nous-mêmes et on doit travailler en groupe. Se pose la question de qui fait le regard extérieur, qui dirige les autres. Et du coup, il y a quelque chose qui est devenu assez évident pour moi que j'ai vraiment assumé dans ce travail-là, en me rendant compte qu'aujourd'hui, par exemple, si on me disait « tu joueras plus jamais de ta vie », ça ne me poserait pas beaucoup de problèmes. Du coup, je suis vraiment devenue metteur en scène aujourd'hui.
D'accord. Comment s'est passé les rencontres pour arriver à une équipe de cette taille ? Est-ce qu'il y a une chronologie ou...
Il y a une chronologie qui suit les spectacles. C'est-à-dire que le premier volet, et donc c'est celui qu'on présente en deuxième, et celui de Dernier remords avant l'oubli. Du coup, il y a 6 acteurs. Puis après, avec la noce qui devient la jeunesse de l'histoire, ils sont 9. Et puis c'est la réunion des 2 équipes qui font les 12 acteurs de Nous sommes seuls maintenant, et du coup les 13 sur Catherine et Christian, le dernier volet.
D'accord. Et du coup, ces personnes, est-ce qu'il y a un système un peu comme Pomera de fidélité aux acteurs ? Est-ce que c'est un travail au long cours ?
Pour ce cycle, oui. Oui, complètement. Ça avait même un sens de justement, par exemple, d'avoir traversé le travail des deux premiers volets pour arriver à l'écriture de plateau. Il y a même une histoire du collectif à travers ce voyage du triptyque. Effectivement, on n'était pas pareil au moment où on a créé Dernier Remords qu'au moment où on arrive dans Nous sommes seuls. Maintenant, si c'était que des acteurs qui changent, ça n'aurait pas de valeur. Et puis, on a écrit aussi avec des couples qu'on retrouve qui changent. On s'est amusé à raconter une dramaturgie au-delà des volets séparés.
Parce que donc ce cycle a été créé sur une échelle de temps de combien de...
À chaque fois, c'est un spectacle tous les deux ans. Un spectacle qui est créé, un spectacle qui répète, puis un spectacle qui est créé. Donc en gros, ça fait 2009, 2011, 2013.
Donc voilà, on parle d'un travail de 6 ans qui est en ce moment présenté sur la scène de la Croix-Rousse.
Oui.
D'accord. Alors, avant de passer aux questions suivantes, on va faire une petite pause musicale qui est suggérée par vous-même, par le collectif. C'est dans les spectacles qu'on retrouve, il y a un rapport à la musique, il y a un rapport au son. Et donc, notamment, il y a School de Supertramp qui est assez important sur la noce.
See you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks, he's coming along.
Centre de la Gamelle avec le collectif In Vitro. Nous venons d'entendre School de Supertramp. Vous m'avez fourni une playlist d'ailleurs pour préparer l'émission. Je voudrais rebondir là-dessus et notamment avec Eric sur le rôle de la musique dans vos improvisations. Ça joue, vous réunissez plusieurs morceaux comme ça pour des créations?
Ça dépend des pièces. Sur Dernier Remords, pas trop en fait, dans le processus de création de ce spectacle, pas trop. Sur La Noce, évidemment, oui, quand il a fallu parler des années 70 en improvisation, ça a passé beaucoup de disques. Surtout que Julie avait la volonté de mettre une platine vinyle sur le plateau et que ça joue. Donc on est en répétition, c'était en permanence présent. Je dis ça, mais moi j'y étais pas. Mais sur Nous sommes seuls maintenant, sur le troisième volet, dans le processus d'écriture, parce que là c'est vraiment une écriture collective, et dans la préparation de nos improvisations, suite à des provocations de Julie, effectivement, la musique était toujours un outil à notre disposition privilégié. On a été amené à faire des montages sons, on était amené évidemment à passer des morceaux, à les incorporer à nos propositions, parfois chanter des chansons. Oui, non, la musique a une place importante.
Alors du coup, ce processus d'improvisation-répétition, comment ça se passe? Il commence à la table ou vous commencez directement au plateau?
Commence pas vraiment à la table, puisque nous on est souvent à table. Alors du coup on mange plus qu'on ne se parle. Non, effectivement ça commence souvent avec des grandes improvisations témoins que je prépare et qui durent très longtemps pour éprouver un petit peu le. À chaque fois j'aime bien mettre en parallèle la création et l'idée de réel. Du coup j'installe comme une sorte de scénario que j'aurais préalablement écrit. Les acteurs sont pas tous au courant des mêmes choses, ils jouent leurs personnages, alors c'est vraiment des impros référentes, mais ça peut durer 6, 7, 8 heures d'affilée. Alors il y a souvent des grands repas, effectivement on fait pas ce genre d'improvisation dans des salles de répétition, on les fait dans des lieux réels, à la campagne, dans des restaurants, et du coup on essaye de voir comment le jeu se confronte à la réalité, c'est-à-dire avec un serveur qui va croire que ça c'est pas une table de théâtre, mais c'est une table normale, ou alors des voisins qui vont rejoindre notre improvisation, et de voir comment la réalité improvise avec le théâtre. Et du coup, c'est le point zéro de notre façon de travailler et de commencer la fiction, qu'elle soit écrite par des auteurs ou qu'elle soit totalement inventée dans le dernier volet.
Donc j'ai bien compris, vous faites des performances, des improvisations en public?
Non, pour nous. Non. Enfin, le public, c'est moi. Moi, je me balade au milieu d'eux, en milieu réel. Mais les autres ne savent pas que c'est une improvisation. Du coup, il n'y a pas de performance, puisque les gens de la table d'à côté ne savent pas que la table voisine est en train d'improviser. Ils pensent que c'est des gens qui mangent au restaurant.
Mais comment tu fais toi? Alors tu te caches dans un...
Alors moi, ils doivent se dire que la fille d'à côté est très bizarre, parce qu'elle regarde la table en permanence et que c'est moi qui dois paraître pour être bizarre, mais les autres, non. Ou par exemple, effectivement, moi, ils le savent, donc je suis une sorte de fantôme, en fait. Je suis très proche d'eux, mais du coup, ils savent que de toute façon, ils ne pourraient pas faire ça si je ne les regardais pas. On n'est pas du tout dans une méthodologie étrange où on essaye de ressentir ce que ressentirait le personnage. C'est plutôt ludique, en fait. C'est une manière de faire un travail à la table qu'on pourrait faire dramaturgique à l'oral. Seulement, dans un premier temps, on l'éprouve tout de suite par le jeu. Et du coup, derrière, on en parle. Moi, je peux débriefer une improvisation très longue, mais je la débriefe très longtemps aussi. Et à partir de là, effectivement, le travail d'échange du collectif et de parler du récit, de la dramaturgie, des problématiques des uns et des autres, on le fait à partir de ces premières improvisations témoins. Et après, effectivement, on peut faire et des improvisations et du travail autour d'une table. Mais on commence par le jeu, nous, chez nous.
Donc on va prendre comme pièce témoin Dernier Remords avant l'oubli. Mm-hmm. Donc ça a commencé avec ces improvisations et ensuite le texte est venu dessus.
Alors voilà, tranquillement, c'est-à-dire qu'effectivement au début c'était vraiment, on ne prenait que cette journée à la campagne, ce dimanche, on était dans une maison, effectivement ceux qui devaient arriver arrivaient avec, et donc ils ne savaient pas comment aller trouver le personnage qui habite, des fois Eric les attendait en pyjama, enfin, on faisait vraiment effectivement de qu'est-ce qui est intéressant, est-ce que le personnage de Pierre les attend, a prévu, quelle est sa première provocation, mais du coup les autres acteurs n'étaient pas au courant de la provocation de Pierre. Comment ils en arrivent? Alors au début c'était vraiment avec aucun mot de la garce, mais les personnages et les enjeux.
Ils n'avaient
pas lu le texte ? Ah si, ils avaient lu le texte, bien sûr. Mais je veux dire, en improvisation, nous, on adapte en fait. C'est comment Eric s'approprie le personnage de Pierre et du coup, on le faisait chez lui. donc dans son vrai, dans sa vraie maison en fait, pour que les acteurs, pour que de voir en fait quel était l'enjeu de la vente de cette maison. Et du coup, on éprouvait sur une journée qui passe, le personnage de l'adolescente pouvait s'endormir parce que effectivement, il faisait avec du vrai vin, de la vraie nourriture, etc. Et au fur et à mesure de ces impros-là, on les refaisait, on les réduisait et on mêlait le langage improvisé avec la langue de la garce, et pour au fur et à mesure ne garder que la garce avec le souvenir de l'état qu'on avait observé, disséqué quand on faisait nos longues improvisations.
Alors tout le triptyque se déroule effectivement autour de tables et donc de repas. Il y a j'ai cru voir qu'ils mangeaient réellement. Mm-hmm. Il y a du vin. Est-ce que c'est du vrai vin?
Alors, toute une histoire avec ça. Alors, en improvisation, les premières, c'est du vrai vin, mais ça, on arrête très tôt. Hein. Oui. Non, après, on a énormément de bouteilles de vin avec du colorant alimentaire. Et depuis peu, l'équipe, c'est un petit peu... on va dire qu'on a eu des revendications puisque ces colorants sont assez toxiques et on en consomme beaucoup. Donc, nous sommes passés au jus de raisin depuis quelques dates. Alors, c'est plus pâteux, mais c'est, paraît-il, moins dangereux.
Qu'est-ce que tu en penses, Eric ?
Moi, j'étais pas pour. Moi, je voulais continuer à m'intoxiquer
avec
les colorants. Oui, oui, parce que c'est totalement. Il y a pas d'odeur, c'est de l'eau. Tandis que là, le jus de raisin, vraiment, avec le sucre, là, comme j'ai l'habitude de parler beaucoup dans les spectacles, ça devient. Au bout de 20 minutes, c'est l'enfer. Manger une choucroute avec du jus de raisin, c'est pas très agréable.
C'est ce qui se passe. Voilà. Et le principe étant aussi que...
Je m'élevais contre.
C'est les filles qui voulaient. Mais moi, je comprends. Ouais. Hein. Paraît-il que c'est cancérigène, donc bon, quand même. Et après, le principe, c'est que c'est les acteurs qui cuisinent chaque soir, chaque repas des volets. Donc quand ils sont en pièces détachées, ça va. Quand c'est une soirée de 6 heures, effectivement, il y a des fourneaux et c'est les acteurs qui, souvent les personnages qui doivent le faire, qui prennent en charge un repas qui change donc en fonction des villes, en fonction des envies. Et donc ils mangent effectivement de manière alors très improvisée sur le lagarce parce que c'est censé être un repas improvisé comme une sorte de pique-nique. Mais ils mangent pas mal sur la noce et ils mangent beaucoup sur Nous sommes seuls.
Mais alors du coup, tu veux dire que samedi, ça va cuisiner en coulisses pendant toute toute l'après-midi?
Oui, oui, oui.
Par les acteurs?
Par les acteurs.
On peut goûter?
Il reste souvent de la choucroute. Si tu viens sur le plateau après Nous sommes seuls, il reste souvent un fond de gamelle. Ouais, ouais.
Mais c'est dangereux les fonds qui restent.
Oui.
Parce que souvent
parce que
ça a été
des verres, il y a des bouts de verre dedans.
C'est dangereux.
Genre.
Et du coup, combien de temps de répétition, par exemple, pour on va rester sur Dernier Remords. Quel est le timing? Combien de temps d'improvisation comme ça? Combien de temps sur un vrai plateau pour régler, je suppose, minimum la logistique, la lumière, le.
Alors c'est particulier parce que c'est vraiment le début de la compagnie. Du coup, on a fait. Pour structurer la compagnie et avoir des premières dates, hein, parce qu'il faut quand même à un moment donné que ça devienne concret, on s'est servi du concours jeune metteur en scène du Théâtre 13. Du coup, on avait effectivement un concours en plusieurs tours qui démarrait d'un dossier qu'il fallait écrire au mois d'octobre et plusieurs tours de sélection avec aussi, ils nous demandaient de structurer la compagnie, puisque si on était gagnant, il pouvait y avoir de l'argent. Du coup, il fallait que ce soit une association déclarée. Et si ça nous menait à des dates qui était mi-juin. Donc on va dire que ça a épousé le temps de répétition à peu près 9 mois, mais parce que c'était pas rémunéré, nous on se voyait quand on pouvait. Du coup, il y avait aussi une sorte d'agenda commun qu'il fallait créer, qui fait qu'on s'est pas vu on s'est pas vu pendant 9 mois d'affilée, mais quand même on a trouvé ce processus lent qui fait que nos spectacles ils évoluent entre les grands temps d'improvisation, les temps improvisation texte, mais par exemple le temps réellement d'être sur le plateau, non, on est arrivé la veille ou le jour même, je crois, du concours. C'était le principe. Du coup, effectivement, c'était cette espèce d'espace de garage qui était génial. On avait 200 mètres carrés de garage où on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait y aller quand on voulait, plus les lieux réels. Et du coup, après, c'était comment essentialiser ça au plateau. Mais la dernière phase, elle est assez rapide. Le moment d'arriver au spectacle, il est très court.
D'accord. Alors du coup, vous vous impliquez dans le réel, vous vous impliquez avec les objets, donc du coup avec le vécu des acteurs eux-mêmes, leur histoire elle-même. Dans la manière de présenter ce cycle, il y a aussi quelque chose qui a un rapport à l'autobiographie, le portrait d'une génération. Donc là, on va couvrir tout ce qui est recherche. Donc là, il y a des recherches de terrain, mais il y a aussi des recherches, je suppose, plus intérieures. Enfin, comment on fait pour ramener un rapport aussi autobiographique dans un texte d'auteur comme Lagarce ou Brecht?
Bah, par exemple, dans la musique, comme le disait tout à l'heure Eric, dans le Brecht, par exemple, alors oui, on utilise des vinyles, mais c'est pas n'importe quel vinyle, c'est les vinyles des parents de chacun des acteurs. Donc, c'était pas aller faire les brocantes et trouver des vinyles des années 70, c'était de dire qu'est-ce que vous avez chacun. Souvent, c'était des vinyles qui étaient plus utilisés puisqu'il y avait pas beaucoup de parents qui continuaient à utiliser leurs platines. C'était quels sont, du coup, plutôt des restes de là où on vient, de notre enfance, donc du coup, de nos parents. Et du coup, comment, à partir de là, on peut créer, plutôt que de faire une recherche documentaire qui serait plus extérieure à nous, des années 70, ou alors même on se situe pas du tout en tant que politologue ou sociologue par rapport à cette époque-là, c'est qu'est-ce qu'on en garde ? Du coup, effectivement, on a un rapport extérieur parce qu'il s'agissait pas de, il s'agissait de garder une pudeur par rapport à ce qu'on allait raconter, et personne n'a raconté sa propre histoire. Mais il s'agissait pas non plus de rentrer dans un théâtre documentaire. Ça n'a jamais été l'objet de cette trilogie. C'était une manière pudique de parler de nous. Et pour parler de nous, on a choisi d'incarner la génération d'avant.
Eric, par exemple, sur cette question-là, tu as porté des souvenirs personnels dans le rapport aux parents, enfin à tes propres parents, ou dans ce processus.
Alors oui, c'est de plus en plus vrai, j'ai envie de dire, parce que ça l'est pas beaucoup dans Dernier Remords, ça l'est un petit peu dans Nous sommes seuls, et ça l'est carrément dans le dernier volet. Mais comme il n'est pas présenté à la Croix-Rousse, on va pas en parler. Mais sur Nous sommes seuls maintenant, oui, des souvenirs. On a fait dans la préparation, on a fait des interviews. Je sais par exemple que ma mère s'est prêtée un entretien avec une comédienne pour expliquer comment elle a vécu sa propre jeunesse, comment elle a vécu les événements de mai 68, par exemple sur des choses comme ça. Moi, j'ai interviewé un vieil ami, le père d'une amie qui était 68ard lui aussi. Enfin oui, j'ai amené des souvenirs, oui, des choses du rapport au père aussi.
Donc il y a eu des interviews alors.
En fait, au début, je leur ai dit, une des premières choses que je leur ai demandé pour Nous sommes seuls maintenant, c'est de dire de trouver quelqu'un de cette époque-là, mais il fallait que cette personne soit proche de l'acteur. D'une certaine manière, je voulais pas qu'ils aillent trouver quelqu'un, une figure importante de mai 68 et qu'ils aillent l'interviewer comme étant encore une fois un théâtre documentaire. Quelqu'un de proche, et je leur ai dit, le but étant que vous l'interviewez et qu'après vous l'incarniez. C'est-à-dire qu'Éric, quand il a interviewé l'homme dont il parle, il l'a joué. Il a joué cet homme-là. Et du coup, parce que Éric, tout d'un coup, un autre personnage, bah, sa maman qui était présente en 68 à Paris, mais du coup, elle aussi, d'un autre milieu social, a inspiré d'autres personnages, parce que du coup, elle l'a vu de ses fenêtres et elle l'a pas fait. Donc, ça a été une manière, après, nous, d'incarner cette parole-là. Mais on n'a pas entendu les interviews des uns et des autres. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un rapport au réel, on a un rapport à l'intime, mais c'est toujours transformé et c'est du théâtre. Donc moi, je me dis qu'à partir du moment où ils donnent cette matière-là, c'est du théâtre et on n'est pas du tout dans une introspection ou ni dans une psychanalyse ou à regarder des documentaires et à en parler ou à s'échanger nos interviews. On passe par l'incarnation.
Quel est le premier, j'aurais tendance à demander, l'œuf ou la poule, je veux préciser cette question, c'est-à-dire est-ce que c'est le choix de Dernier Remords de Lagarce qui a amené cette introspection, ou est-ce que c'est parce que ce texte faisait résonner chez toi, ou d'ailleurs si c'est toi qui as choisi le texte, parce qu'il faisait résonner un passé, ou un rapport à un passé, que tu l'as choisi ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que, sur le moment, j'aurais répondu que c'est le texte, parce que je suis partie de ce texte de Jean-Luc Lagarce sans me rendre compte à quel point il me parlait personnellement. Et c'est une fois que je m'en suis rendu compte, grâce au travail, c'est moi qui l'ai choisi ce texte-là, mais grâce au travail collectif qu'on a mené d'investigation de ce texte et du sens, que l'idée du triptyque m'est venue et que je me suis rendu compte à quel point je l'avais quand même pas choisi par hasard. Mais le côté même plus personnel, je m'en suis rendu compte à rebours.
Donc voilà, ça s'est fait par étapes en fait, ce rapport-là. Du coup, le choix de la noce a été fait à plusieurs, c'est les acteurs qui ont...
Non, c'est moi.
C'est toujours toi qui choisis le texte.
Oui, parce que cette idée en plus, elle était assez étrange, hein, cette idée de trilogie avec en plus trois formes d'écriture différentes. On m'attendait, après le Lagarce, on ne m'attendait pas sur un Brecht, on m'attendait sur un autre Lagarce ou éventuellement sur un Coltès. Et du coup, c'était aussi une manière de dire, mais non, en fait, nous on s'est amusé avec cette langue de Lagarce, on a aussi beaucoup improviser autour. Du coup, on peut le faire aussi avec une langue qui n'a rien. Enfin, Lagarce dit beaucoup de mots pour cacher ce qu'il veut dire, et alors que Brecht le dit, puis de manière très franche et très hachée. Après, il y avait le plan séquence qui m'intéressait, et c'est vrai que La Noce de Brecht est une vraie pièce de plan séquence avec 9 acteurs tout le temps au plateau. Et moi, c'est ce que j'avais voulu faire dans la recherche de Lagarce, alors que c'est, je sais plus, il y a une quarantaine de toutes petites scènes qui se suivent les unes les autres avec 3 petits points à chaque fois entre parenthèses. Et du coup, d'avoir eu un auteur qui avait décloisonné la notion de scène et qui allait aussi vers le plan séquence que je cherchais, était une manière aussi de dire ben, je vais continuer cette méthodologie, mais avec une autre forme de langue. Et effectivement, le troisième volet est arrivé aussi en disant, à force d'avoir tellement improvisé entre nous avec ces deux auteurs-là, une langue est née aussi, la nôtre, et du coup c'est celle-ci qui doit clore la trilogie, puisque l'idée étant aussi de tomber dans notre génération, et du coup dans le théâtre aussi, dit de plateau, que bon nombre de compagnies ou de collectifs revendiquent aujourd'hui.
Est-ce que tu peux préciser cette notion de plan-séquence ? Alors dans La Noce, il est effectivement très très évident, dans Dernier Remords, un peu moins, enfin il y a plus un glissement. Mm-hmm. J'aimerais savoir si de quand date cette recherche, si c'est venu entre les deux, ou si, et comment tu le définis ?
Je crois que je le définis par rapport à ces fameuses improvisations témoins, où la sensation d'avoir éprouvé un temps réel, qui dit temps réel dit maladresse, dit pas de montage, dit qu'on voit tout, le meilleur comme... Et en fait ça, c'est... je trouve qu'il y a un rapport à la répétition dans le plan séquence, parce que l'acteur est en face du spectateur sur un temps plus long. Du coup, je trouve que la mise en scène est moins présente. C'est les acteurs qui sont actifs de la mise en scène plutôt qu'un objet de mise en scène extérieur, parce qu'il n'y a pas de noir. C'est l'acteur qui décide souvent quand est-ce que ça termine, et c'est même les techniciens qui, en direct, chaque soir, envoient les effets en fonction de leur choix. Du coup, c'est une autre manière de penser aussi la notion de scène et la notion de théâtre.
Oui, c'est vrai que le plateau est assez ouvert, et il n'y a pas de noir. Un seul noir, c'est à la fin.
Et ça dépend des spectacles, il y en a qui n'en ont pas.
D'accord.
Il y en a deux, les deux derniers n'en ont même pas.
Et c'est pas trop fatigant, Eric, de travailler sur des improvisations de 8 heures ?
Si. Surtout quand on boit du vrai vin, on est vraiment à la fin de la journée. Mais c'est très agréable aussi.
Il y a des vidéos qui existent de ça ?
Il y a des vidéos secrètes, oui. Sur Dernier Remords, par exemple, on a fait ça chez moi. Ça a duré 7 heures, si je ne m'abuse. 7 heures, c'est quoi ? C'est 6 bouteilles de blanc, c'est une galette des rois, c'est beaucoup d'insultes, beaucoup de plaisir. Non, c'est une grande débauche. Une improvisation de 7 heures. Sur Nous sommes seuls maintenant, c'est une invitation dans la maison de campagne de Julie. C'est une journée entière d'improvisation. Alors là, c'était formidable.
Là, c'était énorme.
Dans le jardin, avec des invités, surprises, des choses. Enfin, non, c'est des grandes débauches, je dirais ça. Moi, les improvisations, c'est très agréable. C'est, quand Julie disait que c'était une improvisation témoin, c'est exactement ça le terme, parce que c'est quelque chose qui laisse une trace, une séquelle indélébile sur la répétition et plus tard sur la présentation. C'est très important, en fait.
Et du coup, on n'en abuse pas, on n'en fait pas tous les 4 matins non plus.
Hein.
Mais du coup, il parlait de vidéos, ça veut dire que tu travailles avec des vidéos ou par notes ou...
Non, en fait, je prends pas de notes en 7 heures ou 8 heures. Je me dis que c'est pour ça que je parle beaucoup derrière. Oui, mais je me dis ce que je dois. Je veux pas dire ce qui était bien, ce qui était pas bien. Je me dis que je vais parler de ce qui m'a marqué. Et du coup, si j'oublie de parler de choses, c'est que ça devait être oublié. Et je garde cette méthode-là. Je prends des notes en représentation pour faire le travail dramaturgique du lendemain. Mais en répétition, je ne prends jamais de notes. Et j'essaye de voir, moi, je suis aussi en travail d'improvisation en tant que metteur en scène pour pas rentrer justement dans ça fonctionne pas, parce que je cherche quelque chose qui est plus compliqué que ça. Et ces vidéos-là, au début, on travaillait effectivement avec une vidéaste qui était présente, mais c'est resté des témoins qu'on regardera peut-être un jour, mais je ne les ai jamais regardés, et voilà, c'est quelque part.
Par exemple, sur Nous sommes seuls maintenant, on filmait des improvisations, et souvent, le travers d'une improvisation, c'est quand on cherche pendant longtemps, on peut chercher sur une thématique, on peut chercher pendant 1h30 quelque chose qui au final va représenter 10 secondes dans le spectacle. Mmh. Donc en fait, d'utiliser la vidéo, par exemple sur Nous sommes seuls, pour Julie, ça a été un moyen de dire « Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette improvisation ». Mais par contre, évidemment, pas du tout dans la forme. Donc, de revoir cette vidéo, de dire qu'à l'écriture, il va falloir se focaliser ou concentrer sur deux, trois répliques. Elle, en visionnant ces vidéos, on peut comprendre là où est-ce qu'il faut travailler. C'est ça l'intérêt.
Mais ça, c'était plutôt effectivement sur la fin du processus. Et du coup, c'est vraiment des improvisations d'écriture là, à ce moment-là.
Et donc, Eric, c'est pareil. Toi, tu fonctionnes comment pour retenir les choses? C'est par la mémoire de ton corps ou tu as des carnets de notes? Enfin, comment vous, les acteurs, vous faites pour en face d'une telle méthode?
Oui, alors carnet de notes, oui. On en a pour certains. On écrit beaucoup. On écrit des sensations. On écrit ce qu'on peut qualifier du roman d'un acteur, en fait, du roman du personnage. Des sensations, des idées de situation, des idées de comportement par rapport à certaines situations, des idées de scènes à proposer. Et puis petit à petit, quand on va vers l'écriture du spectacle, à proprement dit, il y a même des répliques qui arrivent, des envies de répliques. Mais évidemment, quand on est sur le plateau, en improvisation, on ne dira pas la réplique, mais on en dira des bribes. On essaye d'écrire, on s'entraîne à écrire pour que sur le plateau, tout d'un coup, ça soit une habitude de pratique, en fait.
Oui, du coup, c'est la grande question, c'est quelle est la quantité de respect au texte original et c'est notamment dans La Noce, c'est assez marquant. La plupart des personnes qui l'ont vu autour de moi, avaient l'impression que c'était complètement réécrit.
Non, pas du tout. Alors effectivement, on a des libertés parce que c'est une traduction. Donc c'est pour ça que je ne mets pas d'après La Noce, parce qu'on joue de la première réplique à la dernière réplique, la traduction de Magali Rigail. Après, on s'est adapté, c'est-à-dire qu'on ne savait pas jouer de guitare. Du coup, on a mis des vinyles. Il y a des petites choses comme ça. On a effectivement, il y a une chose qui est rajoutée, c'est la chanson du père. Ça, c'est un rajout. Mais le reste, il n'y a pas de rajout avec cette idée, effectivement, de disque. Et il y a une petite adaptation sur des petits mots ou des choses. Et après, dans le cadre de la représentation, mais ça, c'est éphémère, c'est du direct. Des fois, effectivement, il peut y avoir des représentations où ça improvise un petit peu autour, plus ou moins. Mais je ne pourrais pas signer d'après La Noce de Brecht, parce que vraiment, on joue le texte. Mais on a une forme de liberté, mais on n'adapte pas.
Dernier remords, c'est pareil, à la virgule près.
Pas dernier remords, c'est le texte.
Ouais, avec quelques petits rajouts, au moment du 2, mais très peu.
Et beaucoup de silence. J'ai remarqué, après avoir vu La Noce, moi j'avais été marqué, enfin c'est très énergique, c'est très vite. Mmh. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir la garce jouer avec un rythme. Mais là, il y avait des vrais silences, à la garce d'ailleurs. C'est venu aussi en répétition ou en...
C'était hier, ça. Très sincèrement. Voilà. C'était hier. C'est pas forcément d'habitude.
Ça peut accélérer un peu plus.
Ça sera pas samedi, peut-être. Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Non, c'était hier. Bah, le principe fait que, quand même, les spectacles sont très improvisés en termes de qui est au plateau, qui sort sur la garce, qui va dire la réplique à qui. Il y a quand même, du coup, ça crée des sensations. Des fois, la garce est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. Hier, effectivement, il avait en plus, il avait le silence, des silences qui s'installaient. Il y a aussi que souvent les deux volets, maintenant, on les joue dans des soirées d'intégrale. Du coup, là, ils sont repris de manière séparée. C'était mais on ne peut pas dire que ce qu'on revendique, ces silences-là, ils sont arrivés hier et c'était la représentation d'hier, mais on accepte ça dans le processus et sûrement que samedi ce sera différent.
Parce que quand ils sont joués effectivement séparément, vous avez peut-être l'impression d'avoir plus d'espace, Eric ?
D'espace, je sais pas, mais oui, non, mais c'est vrai que ça conditionne le fait de savoir qu'on joue un volet seulement ce soir-là et qu'effectivement il rentre dans le cadre d'un triptyque, c'est pas pareil. On se posait la question en note entre nous de dire est-ce que on s'économise un petit peu sur un volet en sachant qu'on a un autre qui commence 10 minutes plus tard ou inconsciemment, sans doute, quand on est dans le cadre d'une seule et même soirée, c'est pas pareil, on essaye d'en faire un seul bloc, un seul morceau. Non, c'est sûr, mais ça joue beaucoup inconsciemment, ça, je pense.
Et puis le Lagarce a la particularité d'être pris en étau par les deux autres. Donc La Noce, qu'elle ouvre la semaine, à la rigueur, elle retombe sur ses pattes, puisqu'elle ouvre toujours, que ce soit une semaine ou que ce soit la trilogie, elle ouvre. Alors que le Lagarce, il est pris en étau entre cette genèse, cette ouverture de La Noce, et puis l'accouchement de l'écriture de plateau. Et du coup, ces années 80 sont vraiment... ça raconte beaucoup, en fait. Et du coup, la fin telle qu'on jouait La Garce quand on l'a créée n'est pas la même que quand on enchaîne avec Nous sommes seuls maintenant, et que c'est la fin de Nous sommes seuls qui crée la trilogie, qui clôt la trilogie, pardon. Et donc, effectivement, il faut réappréhender ces volets quand tout d'un coup ils sont tout nus et tout seuls.
Bon, pour le coup, la gare, c'est beaucoup l'écriture du non-dit. Hein. Donc, évidemment, la couleur arrive assez vite, c'est sûr, ça s'y prête.
Eh bien, en parlant de silence, on va passer à un deuxième morceau. On va remonter donc des années 70 à 90, on en est aux années 80. Voilà, donc ça va être les Clash. Voilà, Straight to Hell. Avec le collectif In Vitro qui présente le triptyque des années 70 à nos jours en ce moment au théâtre de la Croix-Rousse. J'ai une petite question. Jean-Christophe Laurier, c'est sa vraie coiffure? Il est coiffé comme ça d'habitude ou c'était spécifiquement pour le...
Ben non, il est coiffé comme ça. Il est coiffé comme ça. Après, il se coupe pas les cheveux quand il sait qu'on joue la noce dans pas longtemps. D'où cette... cette magnifique coupe avec la moustache.
Qui sera donc à voir, si vous voulez la voir, ce sera dans le triptyque demain à partir de 16h. Voilà, la coiffure de
Jean-Christophe Laurier.
Ce soir, dans le volet de ce soir, c'est plus sa moustache qui sera en jeu.
Sa mise en valeur.
Oui, vous allez voir, c'est plus la moustache.
Alors, le troisième texte est une écriture de plateau, enfin une écriture du collectif. Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé de manière assez préparée pour nous et évidente, comme je vous le disais, vu qu'on avait beaucoup improvisé. Quand même, une langue était née entre nous. Du coup, il s'agissait de garder cette langue qui d'habitude restait souterraine et restait un objet de recherche pour nous, pour en faire un spectacle et surtout aller un petit peu plus loin sur quelle note on voulait donner à cette trilogie, puisqu'effectivement, bon, mais Lagarce le fait, lui, en parlant des années 80. Brecht n'a pas voulu parler des années 70, hein, c'est quand même plus nous qui lui avons demandé de parler de ça. Du coup, il s'agissait vraiment, après le diptyque qui a beaucoup joué, d'aller au bout du geste et de pouvoir aussi finir avec notre écriture et notre parole. Du coup, qu'on co-signe à 12 acteurs avec moi-même, donc à 13. La spécificité, c'est qu'on n'a aucune trace sur le papier de cette œuvre. Donc, on a déposé un titre à la SACD en touche des droits d'auteur divisé par 13, mais du coup d'une œuvre qui n'existe pas textuellement, c'est une page blanche. Après, la mémoire collective est assez énorme, c'est-à-dire qu'on est 13 à posséder le récit, qui du coup est très écrit dans nos têtes et très précis, et qui devient de plus en plus précis effectivement au fur et à mesure des représentations. Tant qu'on n'est pas passé le premier jour de la première, le texte, l'idée du texte, même s'il est oral, n'existe pas. C'est vraiment le temps zéro de l'écriture, la première fois qu'on confronte cette grande improvisation de récit au public. Et à partir de là, on essaye de préciser cette improvisation pour qu'elle, la part d'improvisation reste minime. Elle est là parce que du coup, on a quand même le choix de dire un autre mot puisque c'est pas écrit. Mais l'idée est quand même de revendiquer une écriture, mais qui reste orale, du coup, qui reste éphémère et qui ne pourrait pas aller vers une publication. Voilà, et du coup qui est remise en travail chaque soir. Donc avant chaque représentation, on travaille encore 2, 3, 4 heures de notes pour réinterroger le récit et dire qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, à changer chaque soir.
Et Eric, t'as pas des antisèches du coup?
Non, pas du tout. Non. J'ai mon petit carnet de notes. Voilà, que je reconsulte avant chaque présentation.
Et donc, en pratique, ça s'est passé comment? Tu es arrivé sur Nous sommes seuls maintenant avec ton personnage de Dernier Remords? Sur quoi vous avez démarré?
Non, pas du tout. C'est
sur les personnages ou sur la situation?
Non, alors sur les personnages assez vite, mais sur des figures, on a envie de dire. On a construit une écriture, enfin une histoire, un récit, comme disait Julie. Avec des membres d'une famille qui se voilà, puis on a déroulé cette histoire avec les enjeux recentrés autour du couple de François et Françoise. On va raconter un petit peu l'histoire qui ont été des figures 68ardes qui ont aujourd'hui 40 ans et qui se prennent à réespérer un petit peu sur un nouveau mode de vie. Ils vont passer de Paris à la campagne et donc ils vont se réinstaller dans le Poitou. Et François va recommencer sa vie avec une formation agricole, voilà. C'est un peu. Donc rapidement, on a été confronté à ces figures et puis on les a nourries, on les a densifiées, on a voulu surtout parler d'une thématique principale qui est la chute des utopies sur Nous sommes seuls maintenant. Voilà, une espèce de regret de cette génération de ne pas avoir porté aussi haut qu'il ne l'avait souhaité certaines revendications. Voilà.
Mais comment ça s'est passé? Si je calcule bien, il doit y avoir 3 générations déjà dans les acteurs dont on parle. Il y en a certains qui sont plus âgés. Il y a Annabelle Simon qui doit être plus jeune aussi. Mmh. Et donc vous prenez les inspirations des âges respectifs des acteurs?
Alors du coup, on n'a pas tant de différents. En fait, on n'a pas d'âge différent, on a des physiques différents. Mais en fait, ça se joue à quelques années près, mais on n'a pas 10, 15 ans d'écart les uns avec les autres. Du coup, c'était plutôt, effectivement, moi j'aime bien les gueules en fait du collectif, les physiques. Du coup, on écrit pas mal à partir de ça. Et effectivement, Annabelle étant la seule qui pouvait jouer quelqu'un de 17 ans, 20 ans, alors qu'elle a plutôt 34 ans. Et puis pareil pour Olivier, qui tout d'un coup pouvait, parce que ça lui parlait aussi, raconter des choses d'une autre génération et du coup incarner quelqu'un de beaucoup plus vieux que lui. Mais ça, c'est Olivier pourrait le faire, d'autres acteurs ne pourraient pas le faire. Donc c'est aussi en fonction de ce que les acteurs dégagent, est-ce qu'ils avaient envie de... En tout cas, est-ce qu'ils pouvaient raconter en improvisation aussi.
Mais donc, du coup, le texte lui-même de Nous sommes seuls maintenant va changer d'une pièce à l'autre. Enfin, si, quand vous allez le jouer ce soir.
D'un soir à l'autre, vous voulez dire ?
Oui.
Mais alors, pas tout à fait, parce que le récit, c'est toujours le même. Toujours. Y a des éléments de récit qui sont essentiels. Donc, c'est toujours les mêmes éléments, c'est quasiment les mêmes scènes, les mêmes mouvements de scène. Il y a des mouvements dramaturgiques, il y a deux grands mouvements dramaturgiques dont Nous sommes seuls, qui se situent à 2 ans d'écart, mais c'est pas la même manière d'y arriver, c'est pas la même manière, c'est pas les mêmes mots en fait. Il y a aucun mot qui est gravé dans le marbre, mais en gros c'est quand même les mêmes choses qui sont dites.
Oui, du coup, à force de répéter, de refaire les situations...
Ça s'écrit de plus en plus.
À force de jouer surtout, effectivement. À force de jouer, au début on peut être à 40 minutes de différence d'une représentation à une autre, aujourd'hui non. Aujourd'hui, c'est 5, la différence. C'est pas plus.
Ça fait combien de fois que vous jouez ce spectacle-là ?
Nous sommes seuls. Oula.
Oui.
Je pense que c'est 60 à peu près.
Oui, de l'ordre de 60.
Ouais.
Mais on a la même volonté et exigence, en tout cas on essaye, de par rapport au récit aujourd'hui qui a 30 dates ou qui a 50 dates. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est encore un premier geste d'écriture, plus assuré, bien évidemment, où il y a même des choses, on me dit, ces choses-là, elles ont peut-être fait leur temps, du coup, elles doivent se renouveler, réoxygéner, etc. Mais l'écriture reste quand même assez éphémère dans l'idée. Après, comme le dit Eric, ça ne change pas du tout au tout d'un soir à l'autre, bien évidemment que non.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une écriture évolutive. C'est que on n'est pas fou, on va pas tout remettre en question du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a une manière de procéder, qu'on se réunit en notes avant le spectacle, tous ensemble pendant un temps assez grand, pendant jusqu'à 3 heures en fait. Ça peut doubler le temps de représentation. On discute. Julie nous donne d'abord sa sensation de la représentation précédente. On ouvre un débat autour des thématiques du spectacle. Et puis des fois, on ouvre des chantiers nouveaux. On dit, tiens, cette question, elle est peut-être pas assez précise. Dramaturgiquement, il faut peut-être la réinterroger. Il faut peut-être passer par autre chose, une autre question. Faut peut-être la jouer différemment. Mais on essaie de pas tout faire en même temps.
Donc, et le but étant de tout tenter devant le public en direct. On ne fait pas de raccord, on ne fait pas de plateau. On discute de ça. Tout le monde est d'accord des thématiques qu'on change, des objets, du chantier qu'on met en œuvre le soir. Et on y va. Et moi, j'assiste à ça en direct. Je me revendique souvent en tant que metteur en scène spectatrice pour les écritures de plateau, puisque j'assiste à chaque représentation. Du coup, je regarde, je ne dis pas encore une fois qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. J'observe en fait l'écriture en direct. Et du coup, demain, le lendemain, on continue ce travail collectivement.
Mais donc voilà, il n'y a eu aucun texte amené de l'extérieur sur ce spectacle-là.
Bah,
donc
ça plein pour en inspirer. Ils en ont écrit. Par exemple, au début, même avant que je donne les personnages, j'en sais rien, ils ont travaillé sur le débat d'entre deux tours Mitterrand-Chirac. Et du coup, est resté François et Jacques. C'est les deux personnages qui sont. Un de gauche, un de droite, qui sont devenus beaux-frères. Du coup, en fait, c'est comment on est passé de ça à la fiction. Pareil pour le décor, etc. Moi, je les ai amenés chez mes parents en disant voilà, c'est l'origine, moi, de ce spectacle-là. À vous d'en faire une fiction. Du coup, il est resté cette table, qui est vraiment la table de chez mes parents, qui est le témoin de ce réel-là, à partir duquel on a écrit une totale fiction.
On a travaillé par exemple sur l'émission phare des années 80, si je ne m'abuse, Droit de réponse de Michel Pollack. On en a fait, oui, on en a retranscrit une en entier.
C'est devenu les conflits à la table, mais qui s'est complètement avalé après.
Il y a vraiment beaucoup de sources d'inspiration sur
donc
ce spectacle.
Ça peut être un aspect recherche. Donc.
Ah ben carrément,
voilà. Mitterrand, Chirac et Droit de réponse.
Oui, le discours de Simone Veil à l'Assemblée sur l'IVG.
Oui, je le vois. Oui.
Il y a plein de choses sur lesquelles qui ont
ça,
été
ça, plus le travail de réel où Jean-Christophe, avec sa coupe légendaire, là, donc sa moustache, lui, a fait une formation agricole pendant 15 jours sans que les autres acteurs le sachent. Du coup, quand ils sont arrivés le premier jour pour improviser, ils sont passés à la ferme d'à côté en pensant aller visiter la ferme. Et en fait, Jean-Christophe savait tenir la stabulation de 80 bêtes. Et c'était un grand moment dans l'histoire du collectif.
Attends, la stabulation ?
La stabulation, c'est la ferme, c'est la traite des vaches. Et du coup, il s'appelle Daniel, comme le vrai Daniel, nous, des Deux-Sèvres. Et tous les gens de la ferme ont fait semblant évident de jouer que c'était Jean-Christophe qui tenait la ferme avec les acteurs qui arrivaient en personnage et qui ont découvert que le voisin du coin, c'était Jean-Christophe qui savait très bien faire son métier quand même au bout de 15 jours.
Et puis moi, j'ai passé 3 semaines avec lui où on a pratiqué, on a fait les moissons avec les fermiers, on a trait les vaches matin et soir. Du coup, lié cette relation. Moi, j'interprète François, donc entre ce François qui veut réhabiter et retravailler avec un fermier. Et donc, on a travaillé ça en direct avec les fermiers d'à côté.
Et donc, vous parliez de Mitterrand et de Chirac. Et vous définissez, en tout cas, tout du moins dans ce travail-là, comme une génération qui, contrairement à ses parents, n'a pas bousculé l'histoire. En ce moment, il y a des protestations contre la loi travail. Enfin, ma question, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est encore possible une génération qui bouscule l'histoire ? Ou c'est...
Oui, bien sûr. Après, moi, je crois que ce que j'ai voulu dire, c'était même avec l'histoire, avec un grand H, c'était rentrer dans les livres d'histoire, dans une forme de... Ce qui m'intéressait dans le triptyque, c'était aussi que leurs 20 ans, les 20 ans de nos parents, sont rentrés dans les livres d'histoire. Et du coup, je pose la question, d'à partir du moment où une jeunesse est inscrite, comment elle laisse place à la jeunesse qui suit ? Et du coup, ça, dans le spectacle, c'est beaucoup l'idée d'une génération qui ne veut pas vieillir, en tout cas, dans Nous sommes seuls maintenant, c'est ça, et qui ne laisse pas la place à Bulle, puisque Bulle est presque plus raisonnable que l'utopie de ses parents. Et du coup, comment les 20 ans de Bulle doivent s'affirmer face aux 20 ans de François et Françoise qui continuent à être présentes dans les livres d'histoire et dans leurs 40 ans. Mais bien évidemment que c'était plus prendre ce biais-là que de condamner notre génération. C'était de dire qu'effectivement, c'est une autre couleur en fait en termes d'héritage.
Du coup, même dans le rapport à l'intime qu'il y a dans ces spectacles, il y a pour moi un rapport au politique.
Oui, bien sûr.
Et tu me parlais aussi tout à l'heure de l'organisation même du collectif.
Oui, ben moi je dis souvent que évidemment que le politique il est transcrit et il transparaît par la fiction et ne serait-ce que par le processus de cette trilogie parlée d'aujourd'hui à travers les années 70, 80, 90. Mais c'est aussi dans notre manière de faire du théâtre. Je veux dire, on le fait ensemble. On a eu envie à la sortie des écoles, même si effectivement c'est difficile de s'inscrire dans le paysage théâtral français si on est si nombreux. Mais on en a aussi fait une sorte de manifeste de faire du théâtre ensemble, de repenser la place du metteur en scène, la place de l'auteur, de se battre pour une égalité des salaires suivant la place de chacun. C'était une manière pour nous de lutter et bien sûr d'espérer, parce que finalement on y arrive et puis beaucoup d'autres collectifs y arrivent aussi autour de nous, et ça c'est une grosse marque d'espoir, même si bien évidemment qu'il y a des difficultés, je ne vais pas vous le cacher.
De revendiquer autant de monde sur un plateau aujourd'hui, c'est compliqué dans une tendance générale à un ou deux acteurs, des one-man shows, etc. C'est compliqué de revendiquer ça. C'est un vrai plaisir d'être à 12, voire 13 sur un plateau aujourd'hui.
Oui, c'est
une grande force.
Ça n'a pas été plus facile avant.
Non, c'est sûr. C'est une grande aventure humaine, ça c'est sûr. Oui, faite de haut et de bas. Mais
on est tous conscients qu'on est très dépendants les uns des autres. Ouais. Et ça, moi en tout cas, j'en fais une force et je me mets dans cette dépendance-là, même à ma place, moi, de metteur en scène, bien évidemment.
Donc voilà, c'est avec le collectif In Vitro, donc c'est le triptyque des années 70 à nos jours. C'est ce soir à 20h, donc ce soir c'est...
Nous sommes seuls maintenant,
le troisième volet. Et demain, à partir de 16h, il y a le triptyque qui va jouer.
L'intégrale.
L'intégrale. Bon courage, ça va. Enfin, manger des pâtes la veille.
On mange tout le temps dans tous les spectacles. Donc c'est des curieux mélanges. Il y en a qui, ceux qui font les trois spectacles, ils vont enchaîner poisson, dessert, saucisson, tomates cerises. Ils vont finir sur une choucroute. Enfin, c'est un gros parcours.
Et du coup, je précise qu'il y a encore des places. Donc, si vous voulez aller voir ces spectacles demain. Ou ce spectacle ce soir, ou le spectacle ce soir avec et demain pour voir s'ils se trompent dans leur texte, qui est non écrit. Voilà, c'est encore possible. c'est toujours le théâtre de la Gamelle avec le collectif In Vitro. Et nous allons passer donc à la chronique du théâtre parle au théâtre. Bonjour ou rebonjour, enfin, vous m'avez compris. Cette semaine, j'ai été au théâtre des Célestins. Il y a deux spectacles qui s'y partagent l'affiche, dont Les Affaires sont les affaires. Mais tout le monde parle des affaires sont les affaires. Alors j'ai été voir Monkey Money de Carole Thibault, qui en ce moment dans la salle Célestine. Le sujet est à peu près le même, c'est-à-dire des profiteurs de guerre économique que d'autres appellent le capitalisme. Voici donc Monkey Money en 3 minutes.
Mesdames et messieurs, l'argent libère les hommes et nous avons l'argent. Donc, et par conséquent, nous libérons les hommes. Et je ne dis pas ça parce que je suis votre directeur, non, je vous dis que je suis votre directeur pour qu'on comprenne quel rôle je joue dans la pièce. Est-ce que je me plains, moi, hein? Non, je ne me plains pas. Je n'ai pas à me plaindre, je sais, mais je ne me plains pas. Et ça, c'est de la décence, ça, mesdames et messieurs. Nous avons dit non à la pauvreté. Nous avons osé nous lever et dire non, non merci. Je dirais même non, non à la pauvreté. Et la pauvreté a dit s'il vous plaît. Et nous avons dit non. Nous sommes les héros de notre temps, les derniers résistants de la dignité humaine.
Bravo!
Nous entendons des cris et des plaintes. Il y a toujours des cris et des plaintes. Mais qu'est-ce que c'est que ces cris et ces plaintes face aux hommes et aux femmes qui les poussent? Rien. Qui peut pousser le cynisme au point de dire que les crises et les plaintes sont plus importants que les hommes et les femmes qui les poussent? Personne. N'écoutez pas les crises et les plaintes. Ce n'est qu'un exemple. Mais j'ai rencontré un chômeur hier, il me disait « Je suis scénographe et vous savez comme il est difficile d'être scénographe pour le théâtre. » Eh bien, ni une ni deux, je lui dis « Pourquoi n'allez-vous pas à l'opéra ?» Et il me dit, vous savez, l'opéra, c'est un milieu difficile à intégrer. Et je lui dis, vous avez tort. Il vous suffirait d'aller à l'opéra et de prendre un café avec les créatifs de l'opéra. Et vous leur direz, je suis scénographe, et la prochaine fois qu'ils ont besoin d'un scénographe, ce qu'il ne manquera pas d'arriver, ils vous appelleront. Voilà ce que je lui dis. Vous voyez, tout chômeur a sa part de responsabilité.
Monsieur le directeur?
Oui, une question?
Oui. Vous n'avez pas encore parlé des dividendes?
Ah non, oui, non, je n'ai pas...
Et
non,
oui.
C'est vrai.
Oui,
les dividendes, c'est une bonne question. Alors, une seconde, les dividendes, bah, je les ai par là, attendez. Permettez-moi, par contre, de finir mon discours.
Non, attendez, venez-en aux dividendes. On n'a pas toute la journée, une fois allé protester contre l'implantation d'un centre de réfugiés dans notre quartier à cause de cette saloperie de gouvernement de pauvres.
Oui, bon, les dividendes, mais l'année a été difficile, vous le savez bien. Nous ne nous voilons pas la face.
Bon, c'est incroyable, combien?
Ben, pas grand-chose.
Ben, combien?
Au total.
Combien?
Eh ben, cette année, rien.
Bon, écoutez, monsieur le directeur, emballez vos affaires et faites-fi ça, on n'a pas la journée. Vous êtes viré.
Mais, enfin, pourquoi moi? J'ai pas... Ben, c'est pas moi, c'est... Alors, c'est la faute des employés?
Oh non, mais attendez, on peut pas virer tous les employés à cause de ce gouvernement de gauchos. Donc c'est sur vous que ça tombe, c'est comme ça, c'est cadeau.
Ah, c'est quand même un peu dur, non? Non, mais enfin, je sais pas, c'est assez radical, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une femme, j'ai des enfants, s'il vous plaît. C'est intéressant. Hein.
Donc c'était Monkey Money de Carole Thibault en 3 minutes. Je tiens à préciser que la réplique sur la scénographie et l'opéra est tirée d'une histoire vraie. Je remercie beaucoup Julie Deliquet et Eric Charon du collectif In Vitro pour avoir bien voulu lire cette chronique. Voilà. En roue libre. Bien à vous, à tous les lycéens en grève, tenez bon. Et bon week-end à tous.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires,
noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Donc.
Imiter son silence.